It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay, you know, it's okay.
A tisket, a tasket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mummy. On the way I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it, a little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue, but not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die.
C'est une émission un peu particulière que nous allons vous proposer aujourd'hui. En cette année 2017, beaucoup d'événements vont avoir lieu. Nous ne parlerons pas ici de géopolitique, mais de musique, car de nombreux hommages devront être rendus à Ella Fitzgerald, que vous écoutez actuellement, dont on fêtera le centenaire, ainsi que celui du trompettiste Dizzy Gillespie ou du pianiste Thelonious Monk. Mais il y aura aussi d'autres commémorations. En 2017, ce sera le 20e anniversaire de la disparition du grand Fela Nicola Pocuti, mais aussi du bluesman Luther Allison. Plus joyeux, les 80 ans du saxophoniste Archie Shepp, du pianiste Kirk Lightsey, le centenaire du tout premier enregistrement jazz par le Dixieland Original Jazz Band, des hommages, le 50e anniversaire de la disparition de John Coltrane ou le 10e anniversaire du décès du chanteur sud-africain Lucky Dube, sans oublier le saxophoniste Michael Brecker qui nous a également quitté il y a 10 ans. Bref, beaucoup de dates à retenir, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le mois de janvier 2002, quand apparaissait pour la première fois sur cette antenne l'épopée des musiques noires. C'était il y a 15 ans et nous ne pouvions passer outre un salut confraternel à un personnage qui avait accueilli dans son émission plein sud les premiers élans afro-planétaires de votre serviteur, Amobe Mévégué. Soyez le bienvenu.
Joe Farmer, bonjour.
Comment allez-vous?
Bonjour Nathalie Laporte, quel plaisir. Mais c'est magique la radio.
C'est incroyable. Hein.
Un voyage de 15 ans. Vous savez que c'est la première fois que je viens faire jactance à la radio depuis que
vous avez
j'ai tourné mes
guests.
Non, j'ai pas vraiment quitté puisqu'on est collés.
C'est
on est
vrai, nous sommes collègues.
France 24. TRFI, c'est la fusion, exactement. Ça fait déjà 7 ans.
Tout d'abord, merci d'avoir suivi il y a 15 ans les conseils de Nathalie Laporte lorsqu'elle vous a suggéré de me recevoir dans votre bureau pour imaginer ce qui fut d'abord une chronique et qui est devenu un rendez-vous régulier. Quel souvenir avez-vous d'ailleurs de nos premières joutes verbales il y a 15 ans?
Bah d'abord, ça doit être l'une des premières fois où c'est un noir qui embauche un blanc. Je veux dire, c'est incroyable. On ne le faisait pas travailler au noir, mais c'était bien sûr Nathalie Laporte sous l'impulsion. Nathalie Laporte, c'est un portail pour plein de gens. Elle ne le sait pas, mais c'est l'occasion de lui dire. Moi, j'ai quitté le ghetto des radios afro en venant à RFI et la première porte d'entrée, c'était Nathalie Laporte. On a reçu, parce que l'épopée ne le dit pas suffisamment, on a reçu plus tard des gens comme Rosalmack, etc. Et entre les deux, un certain Joe Farmer.
C'est vrai. Qu'apportait l'épopée des musiques noires à l'univers de plein sud à l'époque?
Alors ça a été toujours une discussion avec... parce qu'au début, c'était une chronique dans l'émission. Moi, je disais, mais ce type... C'est le premier qui va restituer, on a la chance d'être sur RFI, on ne s'en rend pas compte, on touche des millions de gens qui sont toujours en quête d'identité. Et en fait, toi Joe, tu as été, et c'est ce que je te disais toujours, l'un de ceux qui a restitué une portion d'identité musicale et civilisationnelle aux Africains, parce que les Africains, on leur disait toujours, oui mais le jazz, ça c'est la musique des Blancs. Et toi, tu as fait la reconnexion en fait.
Vous me gênez.
Mais non, mais c'est la vérité. Et RFI ne s'en rend pas compte, on touche des millions de gens tous les jours, et pour certains, ça a changé leur vie. Donc pour moi, l'épopée des musiques noires, d'abord le nom coulait de source, et ensuite c'était une restitution historique. Comment tu disais ?
L'ancestralité ancestrale du peuple noir. Je regardais la liste des artistes que nous avons reçus ensemble dès la première année, et sans flagornerie aucune, nous pouvons être fiers de notre collaboration passée, puisque nous avons accueilli entre 2002 et 2004 Marcus Miller, Ahmad Jamal, John Hendrix, Joshua Redman, Tino Gonzalez, Mino Sinelluche, Emeka Copeland, Trilogue Gurtu, Jimmy Cliff, Ray Barreto, Kezia Jones, David Murray, Eric Bibb, Fred Wesley, Magic Slim, Richard Bonnard, Ravi Coltrane, le fils de John, le Golden Gate Quartet, Shakti Diansek, Howard Tate, Terry Callier, James Carter, Bill Wyman, le bassiste des Rolling Stones, Joe Louis Walker, Lobby Traoré, Omar Sosa, etc. etc.
Jimmy Cliff, une anecdote sur cette interview. Quel est le meilleur souvenir de votre carrière? Il dit le Cameroun. Pourquoi? Ben, 5 minutes après arriver, j'étais en prison, et 5 minutes après, je faisais le plus grand concert de ma vie. C'était dans plein sud.
C'est vrai, j'avais oublié ça. Depuis, nous avons grandi. Vous êtes désormais un homme de télévision. Vous œuvrez à France 24, TV5 Monde, et vous avez lancé UBiz News, la chaîne infomusement panafricaine. Quant à moi, j'ai poursuivi avec Nathalie Laporte l'aventure radiophonique qui est désormais l'épopée des musiques noires. Cher Amobé Méveillé,
lui-même.
Beaucoup d'auditeurs nous demandent régulièrement à quoi ressemblait la toute première épopée. Est-ce que vous vous en souvenez?
Pour moi, elle a toujours existé, donc je ne fais pas de césure entre le moment où on a décidé de l'incarner en tant qu'un segment singleton, puisque je me souviens, il y a toujours cette petite ambiguïté. Mais non, mais ça ne fait pas partie de plein sud, c'est plein sud, c'est l'épopée, on l'appelait l'épopée. Donc pour moi, il y a toujours eu cette unicité. Et vraiment, je le redis, même pour moi, parce que nous, on n'avait pas cette culture de Coltrane, le bebop, etc. On disait, c'était la musique des Blancs. Vous étiez un orthodoxe de l'orthodoxie, parce que même pour vous, Miles Davis était un hérétique. Vous considérez qu'il naviguait vers des trucs un peu bizarres. Donc pour moi, il n'y a pas de schisme.
Pour ce 15e anniversaire de l'épopée, je vous propose de nous replonger en janvier 2002 avec les jingles d'époque.
Sur RFI.fr, choisissez votre langue.
Sur RFI.fr, retrouvez l'information internationale en 20 langues et un accès direct aux plus récents des 48 journaux en français.
RFI.fr, c'est aussi une écoute à la carte de tous les programmes, magazines et chroniques de RFI.
L'information en temps réel et en 20 langues, 24h sur 24, sur www.rfi.fr.
Vous écoutez RFI, plein sud.
C'est plein sud, merci de nous rejoindre pour accueillir un nouveau venu dans l'équipe. Salut Joe Farmer.
Bonjour Amobé.
Salut, je disais beaucoup de plaisir et le mot est bien choisi. Beaucoup de plaisir parce que nous allons parler d'une musique qui prend aux tripes, une musique quasi révolutionnaire qui enfantait d'autres matrices musicales. Du jazz dans plein sud, pourquoi ?
Je suis parti tout simplement du constat suivant. Au fil de mes rencontres avec moult musiciens noirs américains, le thème de l'Afrique revenait souvent, et notamment cet attachement au continent africain, ce besoin de revendiquer des racines afro-américaines, au point que je me suis demandé si le jazz n'était pas né en Afrique. Je me suis donc penché sur le problème, j'ai ouvert mes livres d'histoire et rassemblé mes souvenirs d'école. Je vous propose donc de remonter dans le passé pour essayer de comprendre. Nous sommes au XVIIIe siècle sur le continent américain. Les esclaves venus d'Afrique n'ont qu'un droit, celui de se taire et de trimer comme des dingues dans les champs de coton. Ce que les colons blancs n'avaient pas imaginé, c'est que l'on ne bâillonne pas si facilement une culture, un mode de vie, un peuple, et progressivement, au fil des années, des chants, des rythmes vont accompagner les journées de labeur et de souffrance des esclaves. L'oralité ancestrale du peuple africain va suinter, va se propager et ressurgir à travers différents styles musicaux, dont le blues que l'on joue le soir dans les juke joints, ces fameux clubs où les noirs se retrouvent pour expulser leur mal-être quotidien.
Ils sont canailles, disait-on.
Oui, on le disait aussi, c'est vrai. C'était à la fin du 19e siècle.
My man's got a heart like a rocket in the sea. My man's got a heart like a rocket in the sea.
Du jazz, aujourd'hui il est question avec Joe Farmer. On vient d'entendre un petit extrait, ça ne date pas du 18e siècle.
1926, St. Louis Blues, Bessie Smith. Pour que les choses soient claires, je poursuis mon petit rappel historique. Au passage du XXe siècle, nous sommes à une époque charnière où se côtoient les cultures blanches et noires, où l'on observe l'apparition et l'évolution de musiques aussi diverses que les chants religieux, les Negro Spirituals, le gospel, le blues, le ragtime. Rassurez-vous, à Moby, on y est presque. Il ne manquait plus qu'à ces échanges culturels non voulus une trouvaille qui donne à ces rythmes ancestraux une identité. C'est Louis Armstrong qui, le premier, aura l'idée d'improviser, de sortir de la cohésion musicale d'une fanfare et créer presque involontairement un style de musique qu'on appellera le jazz, terme un peu ambigu, né à la Nouvelle-Orléans, provenant du français « jazzé », on se croirait dans une autre émission, et déformé progressivement par les autochtones en un mot à connotation sexuelle ou visant à définir la musique des rues jouée dans les cabarets.
Armstrong, inventeur du jazz, c'est bien ce que vous avez...
Bon, en on tout cas... peut dire que ça comme ça, ah, à oui. La Nouvelle-Orléans en tout cas.
On a bien fait de venir alors. Africain le jazz ou pas ?
Nous y sommes, mais cela ne nous dit pas justement s'il l'est. Même si de nombreux éléments concordants pourraient nous le faire croire. Souvenez-vous, à Mobé, des fameuses revues nègres, comme on les appelait aux États-Unis dans les années 20. Souvenons-nous des grands orchestres swing de Cab Calloway ou Duke Ellington qui invitaient à la danse. On était loin des sonorités intellectuelles qui ont rendu le jazz élitiste. Bref, le jazz d'alors était empreint d'une vitalité africaine indéniable.
Hello everybody, welcome to our famous Cotton Club. I'd like to have the pleasure of introducing none other than Duke Ellington.
Jazz, du vrai, avec la voix de Duke Ellington, on a entendu parler d'un club mythique, le Cotton Club.
Absolument.
Ouais, ouais, si, on a vu plein de films, etc. Donc, on n'est pas forcément rompu à la science jazzistique, mais on essaie de s'informer. Alors, cette polémique sur le jazz africain, pas africain, elle perdure, elle a longtemps perduré.
Si l'on y regarde d'un peu plus près, on constate que nombre de jazzmen ont clamé leur appartenance au continent africain. Certains à travers un engagement politique réel, nous y reviendrons la semaine prochaine. Je pense à Nina Simone, la chanteuse Abel Lincoln, le batteur Max Roach, d'autres à travers une recherche d'identité. Je pense notamment au saxophoniste Archie Shepp qui se souvient de l'impact de sa première visite du continent africain. C'était en 1969.
Pour nous, nous étions, c'était symbolique. Je me souviens bien, tout le monde a baisé la terre. Nous étions revenus chez nous. Quand même, c'était pour des esclaves ex. Et l'Afrique est très symbolique. Et là, cette retour en Afrique, c'était pour moi une naissance, une découverte. J'étais là avec des gens comme Miriam Makeba, Stokely Carmichael. Il y avait un mélange de personnages là. Et je me souviens bien, j'ai fait un concert et ça fait pour moi toujours une expérience de... découvert de moi-même, de ma culture. Il y a des autres raisons. Par exemple, dans l'époque de Coltrane, il a expérimenté avec des modes de pentatonique qui viennent d'Afrique. Coltrane a vraiment, dans un sens, joindre la musique. Et donc, comme un disciple de cet homme, j'avais un concept, comme as a disciple of Coltrane, j'ai un concept plutôt qui joindre. Des musiques, je suis tout à fait chez moi. Je pense pas de jazz quand je suis avec ces gens.
L'affiliation directe entre le peuple afro-américain et l'Afrique, ascendance jazzistique oblige, Sidney Bechet.
Non, Archie Shepp.
Ah d'accord, c'était pour tester votre vigilance, monseigneur. C'était Archie Shepp.
Absolument.
Ah, ça se voit qu'il suit le jeune homme.
La dernière phrase d'Archie Shepp est très révélatrice. Il dit « Quand je suis avec ces gens-là, je ne parle plus de jazz. C'est la fusion totale. Il n'est pas étonnant qu'un musicien afro-américain comme Herbie Hancock ait utilisé ceci. »
Déjà
connu.
Oui, ça c'est les pygmées de Francis Bébé.
Les sonorités très particulières des pygmées de Centrafrique pour l'élaboration d'un thème devenu célèbre, Watermelon Man 1973.
Bébé, les pygmées de l'Afrique bantou qui inspirent donc Herbie Hancock notamment.
Absolument.
C'est le lien évident dont on faisait évocation tout à l'heure.
Tout se recoupe.
Matrice du jazz.
Le problème lorsque vous interrogez les uns et les autres sur l'origine du jazz, c'est que chacun défend sa culture, prêche pour sa paroisse. Prenez Richard Bona, éminent bassiste camerounais.
Est-ce qu'il y a un jazz africain ? Absolument. Absolument. Quand j'écoute... c'est une mélodie africaine. Ne me dis pas que Coltrane a pris ça, c'est une mélodie africaine. C'est pas une mélodie américaine, ça. You gotta be kidding me. Non. It's Africa, Bob. It's African, trust me. Et ça, c'est un Camerounais qui parle, je peux te le dire. You know, je peux en nommer encore plus, you know. C'est quoi le jazz? C'est quoi le jazz? C'est un mélange de cette musique noire avec des harmonies occidentales. That's all. Ouais, aller chercher plus loin. That's it. Et on veut souvent rentrer dans le quand tu joues. Et j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai joué avec des gens comme Cecil Taylor. Ils te diront mieux, quoi. Ils te diront pareil, quoi. All that. C'est African music. Qu'est-ce que les esclaves chantaient? C'était leur seule façon de communiquer, puisqu'ils ne pouvaient pas communiquer. Hein. Ils sont partis aux États-Unis, ils n'avaient même plus... On les interdisait de parler, quoi. Donc pour eux, la seule manière de communiquer, c'était de chanter, quoi. D'où vient le blues? Ragtime, New Orleans, you know? Ainsi de suite, jusqu'au Bob, Hard Bob, whatever. Pourquoi? Il n'y a même pas de questions à se poser, quoi. Donc quand certaines mélodies, tu écoutes certaines mélodies, tu fais le rapport tout de suite. Quand tu es africain, tu entends ces mélodies tout de suite. It's just links, you know. Ça link tout de suite comme ça. Mais pas avec les harmonies. Les harmonies sont très européennes, quoi. You know. Et dans le jazz, s'il y a un jazz africain, non, le jazz est africain. Il y a une partie du jazz qui est africaine et une partie qui est occidentale. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Parce que c'est le rythme et les harmonies sont combinées, quoi. En Afrique, c'est le rythme, et ici, c'est l'harmonie et tout ça, tu combines tout ça, ça fait tout de suite des étincelles, quoi, you know?
Il a tout dit, Richard Bona. Why aller chercher plus loin?
That's
the
right.
Jazz is African.
Yeah, right.
Bon, on n'a plus qu'à plier bagages et rentrer à la maison.
Sauf que, pour être équitable, j'ai donné un droit de réponse à un Américain blanc.
Ah, nul n'est parfait.
Un guitariste.
Qui dit le contraire.
Absolument. Qui est un ancien membre du groupe de Miles Davis et qui a fait appel à Richard Bona sur son dernier album, pour qui, même si l'époque est à l'ouverture vers les autres, le jazz est une création américaine.
Why aller chercher plus loin?
Mike Stern.
Jazz, in a way, has always been like a lot of music. Has always been world music in a way. I mean, world music,
le jazz, comme beaucoup d'autres musiques, a toujours été de la world music. Tous ces termes évoluent si vite, ils ne signifient plus rien. Le jazz a tellement été décrit. Mais il y a une constante, c'est un mélange d'un certain type de rythmes africains et d'harmonies occidentales.
With certain kind of African rhythm, with western harmony.
Mais même pour moi, cette définition n'est pas très juste. Je pense tout de même, et ce n'est pas insensé de dire cela, que cette combinaison de sonorités est née aux États-Unis, à New York, et bien sûr, à la Nouvelle-Orléans. Mais les rythmes africains, on les retrouve dans d'autres musiques, comme la soul, par exemple. On dit que la musique est un langage universel, c'est totalement vrai. Même dans la musique classique, vous trouvez des harmonies, des sonorités provenant de la planète entière. Le monde devenant un espace de plus en plus réduit, il est clair que les musiques s'entremêlent, sont plus homogènes, dans le bon sens du terme, avec davantage de mélanges réussis.
Of course, music is going to become more homogenized in a lot of ways, and more in a good way. More mixed from influences in so many in a great way, I think.
Le jazz serait né à New York et les musiciens du Sonrail du Mali n'ont jamais été à New York et jouent pourtant jazz, les musiciens africains.
Absolument, et d'ailleurs il faudra en parler, on parlera du Maghreb un jour avec Randy Weston et les Gnawa du Maroc ou Archichep avec les Gnawa de Tanger. Très intéressant, on pourra parler aussi de Karim Ziad avec son album Ifrikiya, enfin il y a plein de choses
à dire sur l'Afrique. Enfin ils sont très nombreux.
Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un choc de culture quelque part en Amérique du Nord au milieu du 18e siècle et comme dirait Manu Dibango, de ce fumier que sont ces siècles d'esclavage, est née une fleur, le jazz. Et des deux côtés de l'Atlantique, aujourd'hui, on chérit cette fleur, chacun à sa façon. En Afrique, les jazzmen comme Paco Seri, Jean-Dikoto Mendengue.
Absolument, grand bassiste émérite.
Benz Belinga,
grand saxophoniste, ancien de Kaoma, mais pas seulement, des Touré Kunda aussi.
Tous ces musiciens insistent sur la rythmique. Aux États-Unis, c'est plus un travail sur l'improvisation, l'harmonie. Le seul, à mes yeux, ces temps-ci, à combiner les deux aspects avec talent et inspiration, s'appelle Richard Bonnat, avec qui nous conclurons cette longue introduction à l'univers du jazz.
Mais why aller chercher plus loin?
Avec une anecdote croustillante. Si Bonnat excelle aujourd'hui, c'est à force d'acharnement. Il y a 10 ans, Richard n'était pas le bassiste confiant qu'il est devenu. Et même s'il voulait s'imposer, le poids de l'histoire du jazz le remettait gentiment à sa place. Rencontre fortuite avec Miles Davis en juillet 91.
Miles, j'ai vu le concert de Miles. J'ai vu Miles dans le couloir. Il allait aux toilettes. Et moi, quand je venais d'arriver à Paris, c'est vrai que j'avais vu Miles avec un bassiste blanc qui avait un chapeau de cowboy comme ça, là. Alors je disais, j'arrêtais pas de dire, putain, je vais voir Miles et je vais lui dire que moi je veux jouer dans son band, parce que moi je joue mieux que ce bassiste là. Moi, le jour où je vais voir Miles, I'm gonna tell him, man, I can kick his butt, I can kick your bass player's butt. Et le jour là, j'avais le bag, donc je sors des toilettes et qui vient devant moi? Il y a les deux gardes du corps qui amènent Miles aux toilettes. Et moi je me mets comme ça pour les laisser passer et il se met devant moi et il me fait « You're a musician, right ?» Et j'ai eu tellement peur. Et je ne sais pas si j'ai même pas dit un mot, quoi. Et il est allé aux toilettes, j'avais le cœur qui battait, comme ça. J'avais peur, putain, j'ai dit « Wow, Miles Davis !» Et je suis sorti de là, j'ai dit « Mais toi, t'es grande gueule, toi. Tu as dit quand tu vois Miles, tu vas lui dire que « I can kick your bass player board. » Il est venu devant toi, il t'a demandé tes musiciens, j'ai dit « Non !»
Toutes les musiques contemporaines sont d'inspiration jazzistique.
Absolument.
Nous allons en parler. L'affiliation avec l'Afrique continue à faire débat, mais pour d'autres, elle est avérée. On va comme ça retracer l'épopée de cette grande musique. Alors, why aller chercher plus loin? Restez sur RFI en écoutant Joe Farmer et Amobi Mbeki.
Et voilà. C'est ainsi qu'est née l'épopée des musiques noires sur RFI, que vous appeliez encore l'épopée des musiques jazz à Mobé, avant que Nathalie Laporte ne suggère d'élargir le titre à la communauté noire dans son ensemble. Est-ce que vous continuez à écouter l'épopée des musiques noires d'ailleurs?
Ça m'arrive, puisque j'ai la mauvaise idée de dormir avec la radio, le transistor, et pas plus tard qu'il y a 15 jours, je suis tombé sur un hommage à James Brown.
Oui.
Et je me suis endormi, et comme j'ai toujours vu James Brown sur scène, mais jamais eu l'occasion de lui croiser ni aux toilettes, ni ailleurs, j'ai pu faire un rêve où, en écoutant en filigrane l'émission, je rencontrais James Brown pour la première fois. J'ai fait ma photo dans ce rêve avec James Brown.
Donc j'ai réalisé votre rêve en quelque sorte. Si vous deviez conclure cette émission avec un artiste qui symbolise l'épopée des musiques noires, l'ancestralité ancestrale du peuple noir, qui choisiriez-vous?
Justement, c'est un peu ce que je disais au début et c'est la boucle qui sera bouclée ainsi. Il fallait trouver un artiste qui soit quelqu'un qui ait l'esprit de synthèse, qui soit capable de jouer avec Living Color, qui soit capable de jouer avec le top de la drum and bass, qui soit dans le mandé, qui ait joué avec Hank Jones, qui soit la quintessence de l'Afrique d'aujourd'hui et en même temps l'ancestralité. Ce type-là, c'est un certain monsieur
Sheikh Tidjansek.
À Bali.
Sabali, Sabali.
Sabali, Cheikh Tidiane Seck en 2008 pour clore ce 15e anniversaire de l'épopée. Et comme une célébration ne se fait pas sans quelques bulles, nous allons ouvrir cette bouteille de champagne à Mobé. Vous êtes prêts ?
Why aller chercher plus loin ? Oh yeah ! Alors, le temps que les bulles pétillent, vous êtes en direct sur RFI, attention !
Attention,
champagne !
Et voilà ! Pas mal.
Merci Sa Majesté.
Mais allez, je vous en prie, c'est un plaisir.
Santé.
C'est sur cette explosion festive que nous allons nous quitter. J'aimerais remercier Nathalie Laporte qui œuvre discrètement mais brillamment depuis 15 ans pour la bonne tenue de cette émission. Et j'aimerais vous remercier à Mobé d'avoir eu la générosité de m'accueillir jadis dans plein sud pour les premiers épisodes de l'épopée en 2002.
C'est normal, l'Afrique accueille toujours ses enfants.
C'est vrai. Je n'oublie pas non plus Benson Diakité qui enrichissait ma culture africaine à l'époque. Les centaines d'artistes qui nous ont fait confiance depuis le début et vous, auditeurs fidèles qui nous suivez depuis le tout premier numéro. Nous tâcherons de continuer à vous proposer la meilleure émission possible dans l'avenir et par exemple dès la semaine prochaine avec Charles X, un jeune chanteur de soul américain qui suit les pas de Malcolm X. Notre conversation devrait être passionnante. D'ici là, passez une bonne semaine, dans 30 secondes le journal et bonne année à tous.
Parfaite année.